Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Xavier Martinet, Paloma Soria-Brand et Bertille Bourdon. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la technique, Olivier Arnet.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous entamons aujourd'hui une nouvelle série sur un phénomène redouté, multiforme, qui est aussi une notion clé en sciences économiques, la crise. Celle que nous vivons à l'heure actuelle est sanitaire, bien sûr, mais aussi économique et sociale. Les longues files d'attente devant les points de distribution d'aide alimentaire en témoignent. Le confinement a fait basculer une partie de la population dans la pauvreté. Les inégalités ressurgissent au grand jour et c'est tout notre système social qui est mis au défi. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de l'urgence sociale en compagnie d'Hélène Périvier, économiste à l'OFCE Sciences Po, directrice du programme Présage, programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre, en compagnie également de Bernard Friot, sociologue et économiste, professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Ça embête qui ? Les gens de la rue, les pauvres, parce que les riches, qu'est-ce qu'ils en ont à branler du coronavirus ? Ils mangent chez eux ? Il faut les cours sur Internet. Ils vont pas au restaurant, c'est pas grave. Ça embête qui ? Les jeunes et les étudiants, parce qu'ils pourront pas manger à la fac. Les petits à l'école, ils pourront pas, ils vont pas à la cantine, ils vont pas à l'école. Ça embête qui ? Les parents, les nourrices. Il y en a pas parce qu'ils ont perdu le corona des petits, c'est pareil.
On m'a signalé énormément de femmes seules à la rue et femmes avec enfants ou femmes enceintes. Donc on en a mis certaines à l'hôtel, puisque j'ai une cagnotte qui a permis de payer une semaine à une jeune fille qui s'appelle Laure, 3 jours à une autre qui s'appelle Asma. Et Asma d'ailleurs travaille, donc on va lui trouver une colocation, donc on va essayer de l'installer. J'ai une maman qui était avec un petit garçon de 3 ans dans le hall d'un immeuble. Et elle, une étudiante, j'ai bien dit une étudiante, lui a ouvert sa porte.
Plusieurs familles ont dit qu'il y avait des familles de 7 enfants avec rien à manger jusqu'à la prochaine distribution alimentaire. La situation est particulièrement précaire puisqu'ils ne peuvent pas travailler. Ils ont en général différentes formes de travail, de mendicité aussi, mais de travail informel. Informel ou formel d'ailleurs. Donc là, c'est particulièrement compliqué. Et puis, ils ont aussi qu'un certain nombre de points d'eau ont été coupés. Des points d'eau de cimetière, des points d'eau de gymnase, etc. Et donc, pour accéder à l'eau, c'est encore plus difficile.
Des témoignages extraits d'un documentaire des Pieds sur Terre et d'un reportage du Huffington Post réalisé dans un bidonville Rome. Pour une partie de la population, confinement rime avec appauvrissement, Hélène Périvier.
Oui, alors il faut dire que cette mesure de confinement qui a été prise pour des raisons sanitaires est une mesure qui s'applique de façon uniforme à l'ensemble de la population. Or, nous vivons dans des sociétés aujourd'hui qui sont encore extrêmement inégalitaires. Il y a des inégalités de logement, des inégalités, là on a entendu l'accès à l'eau, mais tout un ensemble d'inégalités encore extrêmement marquées. On pourrait parler des inégalités scolaires, des inégalités femmes-hommes. Et ce confinement, comme il s'applique uniformément, ben, il exacerbe toute cette forme d'inégalité. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'être confiné quand on habite dans un grand appartement ou dans une maison à la campagne que lorsqu'on est nombreux dans un petit appartement dans une cité en banlieue. On voit bien que là, ce qui est demandé aux gens est quand même de nature très différente et beaucoup plus difficile à supporter dans un cas que dans l'autre.
Des inégalités qui étaient connues et largement documentées, mais qui sont soudain comme mises en lumière auprès peut-être du grand public, Bernard Friot ?
Oui, bien sûr, hein, il s'agit d'inégalités révélées. Alors, partiellement créées aussi par le confinement, par exemple, pour des personnes qui relèvent d'une aide alimentaire qui auraient disparu, ou pour ceux qui sont dans des centres de rétention, migrants, dans des centres de rétention, là, on a un élément supplémentaire, bien sûr. Et puis les étudiants en CTU qui n'ont plus de repas du Crous, ou qui, etc., etc. Là, on a des phénomènes absolument dramatiques qui sont nés du confinement, mais le confinement révèle des inégalités effectivement bien documentées. Et toute la question est de savoir comment est-ce qu'on en finit avec ces inégalités. C'est vraiment fondamental.
On va essayer effectivement de voir quelles sont les mesures qui pourraient être prises. Mais d'abord, la Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus pauvres de France, l'un de ceux qui a été le plus touché par l'épidémie. Il y a une vraie inégalité face à l'exposition au virus, Hélène Périvier.
La Seine-Saint-Denis, c'est quand même un département où il y a un ensemble de classes populaires et de personnes qui travaillent, qui probablement sont exposées davantage au virus que d'autres. On peut penser au métier de caissière. Je parle des femmes, ce sont essentiellement des femmes qui sont caissières, et tous ces métiers plutôt précaires se concentrent dans des zones où il y a quand même une très forte ségrégation urbaine. La Seine-Saint-Denis est une forme de cristallisation de cette ségrégation urbaine, et de fait, ça peut être un facteur qui explique pourquoi en Seine-Saint-Denis, le virus a été plus virulent qu'ailleurs. Donc il y a tout un ensemble de phénomènes sociaux, d'inégalités déjà existantes, qui expliquent aussi en partie, et pas seulement, le fait que le virus ne se diffuse pas de la même façon dans une zone et dans une autre.
En effet, c'est avant tout le travail qui creuse les inégalités, Bernard Friot, entre ceux qui sont salariés et les autres.
C'est clair que ceux qui ont alors les situations d'urgence extrême que l'on vient d'évoquer, de manière plus générale, tous les indépendants, les travailleurs indépendants aujourd'hui, ils sont en très grande difficulté pour leurs ressources. Les salariés, on voit bien que le salariat, c'est un progrès par rapport à la dépendance. Les salariés du privé bénéficient de dispositifs de chômage partiel, mais même ce chômage partiel ne va pas assurer 100% de leur salaire. Donc ils vont perdre également une partie de leurs ressources. Ceux qui vont conserver leurs ressources, ce sont ceux qui sont vraiment les salariés au sens strict, c'est-à-dire ceux dont le salaire est un attribut de la personne même à travers leur grade, c'est-à-dire les fonctionnaires, les retraités, en tout cas pour ceux qui touchent un salaire, les hommes qui ont plus que le SMIC, parce que des femmes retraitées sont vraiment dans la grande misère en partie. Et pour cela, on voit bien qu'effectivement, la conquête d'un salaire lié à la personne dans la fonction publique, dans la retraite comme droit au salaire, c'est une énorme conquête sociale contestée par la classe dirigeante qui en permanence s'attaque justement à la retraite comme droit au salaire et à la fonction publique.
Alors qu'à l'inverse, ceux qui sont le plus touchés aujourd'hui par le confinement et ses conséquences, ce sont les saisonniers, ceux qui travaillent au noir, qui n'ont pas de papier, et aussi en particulier les travailleurs du secteur informel. Ils sont particulièrement fragilisés, Hélène Périvier.
Alors, il n'y a pas que cela, parce qu'il y a quand même la crise affecte particulièrement toute l'industrie du tourisme, toute l'industrie de la culture. Donc, on voit bien que toutes ces personnes, par exemple, les intermittents du spectacle, on pourrait en parler, ils sont particulièrement fragilisés puisque tout le spectacle vivant a été stoppé. Et puis, ce sont des secteurs qui vont être massivement affectés par cette crise et durablement, parce qu'il n'y aura pas de rattrapage. Vous ne pouvez pas, les gens ne vont pas aller deux fois plus au théâtre une fois qu'on sera déconfiné, en espérant qu'on le soit relativement vite. Alors qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels il y a effectivement un effondrement de l'activité, mais qui pourra ensuite être rattrapée au moins partiellement une fois que les gens ne seront plus empêchés de travailler par ce confinement. Donc il y a plus largement quand même des secteurs qui ont été extrêmement fragilisés et donc derrière évidemment des personnes qui travaillent.
Plus de 11 millions de salariés sont aujourd'hui au chômage partiel. Mais comme le disait Bernard Friot, pour les plus bas revenus, cela entraîne une perte conséquente de pouvoir d'achat, sans compter que la baisse de revenus peut dépasser 15%.
Oui, évidemment. Alors, certes, théoriquement, le chômage partiel est intégral au niveau du SMIC, théoriquement. Mais les SMICards ne touchent pas que le SMIC. Il y a aussi des primes de panier, il y a des tas de choses. Tout ça va disparaître. Donc, oui, bien sûr, ceux qui ont déjà des faibles salaires, le chômage partiel va atteindre nécessairement jusqu'à l'os leurs ressources. Mais c'est encore pire pour les indépendants. Enfin, j'insiste sur le fait que le statut de salarié, dans notre période d'ubérisation où on vante les ubérisés, c'est un statut qui garantit une certaine qualité de la ressource. Et surtout alors si on est salarié pour sa personne même, comme le sont les fonctionnaires.
Cette baisse du pouvoir d'achat liée au chômage partiel est potentiellement particulièrement lourde pour les populations déjà les moins favorisées. Je pense en particulier au fait que les dépenses contraintes, comme celles qui sont liées au logement, sont toujours là et elles pèsent parfois très lourd dans le budget des ménages, Hélène Périvier.
Oui, alors il y a tout un ensemble. D'abord, ce qu'a révélé cette crise, qui est tout à fait effrayant pour un pays riche comme la France, c'est les familles qui ont des difficultés à nourrir leurs enfants parce que la tarification sociale de la cantine, par exemple, est une aide en nature qui est extrêmement importante pour un certain nombre de ménages. Et donc, on voit que là, les contraintes du confinement, non seulement affectent les salaires et les revenus que les gens peuvent tirer de leur travail, mais aussi un certain nombre d'aides auxquelles ils avaient accès. Et donc, ça met des familles avec enfants d'une très grande difficulté qu'on n'avait peut-être pas envisagé à ce point. À la fois, ça révèle d'une certaine façon l'importance de toutes ces aides et de la multiplicité de ces aides. Et en même temps, là, c'est effectivement dans une période où il y a besoin d'un soutien particulièrement massif pour ces foyers précaires.
Le gouvernement a d'ailleurs annoncé une enveloppe de 39 millions d'euros à destination des associations pour faire face à la croissance du nombre de demandes d'aide alimentaire, en particulier en Seine-Saint-Denis et dans les territoires d'outre-mer. Alors il y a effectivement cette hausse des demandes d'aide alimentaire, mais aussi le fait que le logement est un révélateur particulièrement marquant des inégalités, Bernard Friot.
Oui, alors d'abord les 39 millions d'euros à comparer aux 300 et quelques milliards d'euros pour les entreprises, enfin pour soutenir les prêteurs, puisqu'il s'agit de garantir les emprunts des entreprises, donc soutenir le cœur du capitalisme, les prêteurs. 39 millions d'euros pour l'aide alimentaire, tout ça est quand même scandaleusement ridicule. Le logement, ben oui, le logement, c'était 15% des dépenses des ménages dans les années 70. Aujourd'hui, on en est à, ça dépend des déciles. On en est entre 50% et 25% des dépenses des ménages selon les déciles. C'est une dépense incompressible, là aussi, qui renvoie à une stratégie capitaliste sur l'immobilier qui est absolument, enfin, dont il faut que nous sortions d'une façon ou d'une autre, bien sûr.
Selon une étude réalisée par l'économiste Pierre Concialdi, chercheur à l'Institut de recherche économique et sociale, 6 à 7 millions de Français ont du mal à payer leur logement aujourd'hui, Hélène Périvier. Alors, est-ce qu'il faut mettre en place un moratoire sur le paiement de ces loyers ?
Alors écoutez, d'abord, c'est vrai que le logement est aujourd'hui une préoccupation centrale et ça pèse dans le budget des ménages, c'est absolument incontestable. D'où l'importance absolument de défendre les politiques d'aide au logement qui sont absolument centrales pour limiter l'explosion des inégalités et pour aider les ménages à supporter cette dépense. Bon, on a vu qu'il y a eu quelques arbitrages qui avaient été pris au début de la présidence de Macron qui n'étaient pas favorables à ces allocations logement et pourtant on voit bien qu'elles sont absolument importantes pour pouvoir...
Vous parlez de la baisse des APL de 5 euros.
Voilà, notamment, oui, donc on voit bien que puis des aspects un peu plus techniques aussi de l'évolution dans le cadre de la remise en œuvre des revenus qui sont pris en compte pour le calcul des allocations logement et qui vont être remis. C'est-à-dire qu'avant, on prenait les revenus de 2 ans auparavant. Aujourd'hui, on va prendre les revenus actuels et ça crée évidemment des situations un peu complexes. Bon, on voit bien qu'en tout cas, ça fait partie des aides sociales qui sont importantes à soutenir pour limiter cette explosion des inégalités et ce problème du logement qui est très important pour les ménages et les familles.
Et le logement, effectivement, occupe une part importante dans le budget, mais il y a aussi la question du mal-logement. Selon la Fondation Abbé Pierre, il y aurait 4 millions d'individus mal logés en France, c'est-à-dire qui vivent à la rue, dans un habitat de fortune, dans un foyer ou un centre d'hébergement d'urgence, dans un logement insalubre ou surpeuplé. On a vu que cette crise mettait en lumière de façon parfois particulièrement caricaturale le fossé entre certains Français partis dans leur résidence secondaires et d'autres confinés à plusieurs et dans des conditions de vie particulièrement difficiles, Hélène Périvier.
Encore une fois, cette crise, ce confinement ne fait que révéler des inégalités existantes qu'on connaissait. Donc on ne va pas reprocher aux gens d'être partis dans les maisons secondaires, ce serait absurde, mais néanmoins il y a un état d'inégalité qui était là bien avant cette crise et sur lequel on devrait effectivement essayer de trouver des réponses plus structurelles et pas seulement pour répondre aux besoins que la crise révèle. Donc là je pense que en matière de logement, il y a un gros travail à faire, non seulement du côté des aides sociales, mais du côté aussi de la politique de construction de logements qui serait importante pour essayer de desserrer cet étau.
Est-ce qu'on a des informations sur la façon dont cette précarité croissante touche les villes et les campagnes, peut-être de façon différente, Hélène Périvier ?
Écoutez, moi, à ce stade, là, j'ai pas d'informations particulières, mais c'est vrai que dans les campagnes, quand même, le confinement est potentiellement moins difficile à supporter. Déjà, les gens peuvent sortir plus facilement, la densité est plus faible, et puis ce sont peut-être des zones qui vont être dans le processus de déconfinement, déconfinées plus tôt que les autres, parce que le virus y est moins présent, donc peut-être une plus grande liberté, un retour à l'emploi plus facile, mais ça encore, ça reste encore en suspens.
C'est dans les crises que se manifeste le pouvoir de décision de l'État. Voilà ce qu'affirme Michel Foucault dans le tome 4 de ses dits et écrits. On en écoute un extrait et on en parle après.
Jusqu'à ce qu'on appelle la crise, et plus précisément jusqu'à ces butoirs auxquels on se heurte maintenant, j'ai l'impression que l'individu ne se posait guère la question de son rapport avec l'État, dans la mesure où ce rapport, compte tenu du mode de fonctionnement des grandes institutions centralisatrices, était fait d'un input, les cotisations qu'il versait, et d'un output, les prestations qui lui étaient servies. Les effets de dépendance étaient surtout sensibles au niveau de l'entourage immédiat. Aujourd'hui, intervient un problème de limite. Ce qui est en cause, ce n'est plus l'accès égal de tous à la sécurité, mais l'accès infini de chacun à un certain nombre de prestations possibles. On dit aux gens « vous ne pouvez pas consommer indéfiniment ». Et quand l'autorité proclame « à cela vous n'avez plus droit » ou bien « pour telles opérations vous ne serez plus couvert » ou encore « vous paierez une part des frais d'hospitalisation ». Et à la limite, il ne servirait à rien de prolonger votre vie de 3 mois. On va vous laisser mourir. Alors l'individu s'interroge sur la nature de son rapport à l'État et commence d'éprouver sa dépendance vis-à-vis d'une institution dont il avait mal perçu jusque-là le pouvoir de décision. Le problème soulevé est donc celui de la mise en rapport d'une demande infinie avec un système fini.
La crise est ce qui nous oblige à repenser notre rapport à l'État, Bernard Friot.
Là, je ne serais pas vraiment d'accord avec Michel Foucault. Il parle pas mal de la question des soins. La sécurité sociale des soins a été construite par un régime général à la fin des années 50, dans les années 60, qui était encore dirigé par les travailleurs eux-mêmes, des travailleurs élus, et qui ont délibéré sur ce que devait être le système de santé. Dire qu'il y ait eu une injonction de l'État, ça c'est postérieur, c'est lorsque précisément pour accompagner le gel de la croissance du taux de cotisation, puisque le taux de cotisation à l'assurance maladie est passé de 8% du salaire brut en 1945 à 16% du salaire brut à la fin des années 70, et il n'a pas bougé depuis, nous sommes toujours à 16% du salaire brut, pour accompagner la pénurie générée par ce gel du taux de cotisation, un gel du taux de cotisation qui a bénéficié à une croissance considérable de la part de la valeur ajoutée allant au profit, allant aux actionnaires. Ce gel du taux de cotisation s'est accompagné d'une étatisation croissante, oui, bien sûr. Et cette étatisation, à travers la bureaucratie des agences régionales de santé, à travers la perte de pouvoir des travailleurs dans la définition de l'appareil de soins, à travers le fait que les soignants ont été de plus en plus soumis à des protocoles gestionnaires et ont perdu toute liberté clinique. Tout ça, effectivement, nous interroge, mais nous interroge non pas sur le fait que nous nous heurtons à un monde fini alors que nos besoins sont infinis, ça c'est un propos extrêmement réactionnaire, ça nous interroge sur le fait que nous avons su faire pendant plusieurs décennies un dispositif général, le régime général de sécurité sociale et de production de soins, sans faire appel au marché des capitaux, par une gestion par les travailleurs eux-mêmes, et c'était infiniment plus efficace que lorsque le capital est arrivé, les partenariats publics-privés, et l'État omniprésent depuis les ARS, depuis Juppé, et l'invention des agences régionales d'hospitalisation.
Mais aujourd'hui, le déficit de la sécurité sociale dont vous parlez, Bernard Friot, devrait atteindre 41 milliards d'euros en 2020. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Or, ce que vous expliquez, c'est qu'avant même le début de l'épidémie, la sécurité sociale était déjà sous tension.
Non, mais ce déficit est un déficit purement provoqué, encore une fois. jusqu'au début des années 2000, notre système de protection sociale est légèrement excédentaire d'une année sur l'autre. Pourquoi ? Parce que le gel du taux de cotisation a commencé à faire sentir ses effets, qui est un gel du taux de cotisation depuis maintenant 40 ans. Nous sommes passés à l'échelle totale de la sécurité sociale, hein, d'une cotisation qui était de 28% du salaire brut en 45 à 65% du salaire brut à la fin des années 70. Et nous sommes toujours à 65% du salaire brut puisque on est en gros 22% salariés, 44% employeurs. C'est-à-dire que nous sommes de fait depuis 40 ans dans un dispositif qui est sous tension, évidemment, mais non pas parce que nous serions face à des besoins infinis dans un monde fini, mais parce qu'il y a eu un choix spécifique de ne plus socialiser la valeur dans des cotisations gérées par les travailleurs eux-mêmes, mais de la socialiser dans des taux de profit qui alimentent des marchés financiers qui sont devenus les maîtres de notre existence collective avec le magnifique résultat que l'on sait.
Vous partagez ce point de vue, Hélène Périvier ?
Oui, alors je serai un peu plus nuancée, mais c'est vrai que la sécurité sociale telle qu'elle a été fondée, c'est la participation des travailleurs via les cotisations à la gestion des grands risques sociaux que sont la santé, le chômage, la famille aussi. Après, il y a effectivement des arbitrages qui sont faits. Si on prend par exemple la question de l'assurance chômage, on voit bien que la gestion par les partenaires sociaux est également aussi un peu problématique, parce qu'on voit bien que c'est cette tendance, quand le chômage baisse, on a l'impression qu'il y a une cagnotte, donc il y a des échanges qui se font entre les représentants des syndicats de travailleurs et puis le MEDEF d'un côté pour voir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on baisse les cotisations, etc. Et puis après, du coup, quand le chômage augmente, on se retrouve à essayer, bah, alors comment est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut augmenter les cotisations d'une part, baisser, revenir sur les droits des travailleurs de l'autre. D'ailleurs, c'est souvent les travailleurs qui perdent dans ces négociations. Peut-être qu'il y aurait moyen de lisser pour que les choses soient faites de façon plus harmonieuse. Mais néanmoins, c'est vrai que la question de l'implication des travailleurs dans la gestion des grands risques sociaux est importante.
À noter que le déficit de l'assurance chômage pourrait lui aussi se creuser à l'occasion de la crise, puisque le chômage pourrait toucher 460 000 individus supplémentaires pendant la période de confinement en France, selon l'OFCE. Alors, quelles mesures prendre face à cette crise sociale ? Emmanuel Macron a annoncé le 13 avril qu'une aide exceptionnelle de 150 euros serait versée à chaque famille bénéficiaire du RSA ou de l'allocation de solidarité spécifique, plus 100 euros par enfant, et les familles touchant des aides au logement percevront également 100 euros par enfant. Ce sont des mesures nécessaires mais insuffisantes pour vous, Hélène Périvier ?
On a parlé des personnes qui étaient en chômage partiel, mais il y a aussi énormément de personnes, comme dit, qui sont au chômage parce que, par exemple, leur CDD n'a pas été reconduit. Là, on le voit massivement parce que, évidemment, les décisions d'emploi, elles sont complètement gelées du fait de l'incertitude. Et on ne sait absolument pas ce qui va se passer, y compris après le 11 mai, comment le déconfinement va pouvoir s'opérer. Donc, effectivement, là, il y a une urgence absolue de soutenir le revenu des ménages par des mesures. Alors là, ce sont des mesures sociales qui sont extrêmement ciblées. Est-ce que ce sera suffisant? Probablement pas, parce qu'on voit bien qu'il y a une chute du niveau de vie qui va être extrêmement importante pour une partie de la population.
Les associations demandaient plutôt 250 euros.
Oui, donc voilà, on va certainement être en deçà des besoins de ces familles-là pour non pas même maintenir leur niveau de vie, mais à minima qu'ils ne s'effondrent pas trop. Donc là, il y a un véritable enjeu. Il va y avoir une vraie question de redistribution, parce que cette crise, on va en sortir quand même en perdant des plumes. Et donc il va falloir se poser la question de qui et comment répartir le coût de cette crise, qu'il va y avoir effectivement à repenser l'architecture du système fiscal et social pour pouvoir faire en sorte que ces familles ne se retrouvent pas, ces ménages, je ne se retrouve pas dans une situation dramatique.
Ce qui inquiète beaucoup, effectivement, c'est le caractère ponctuel de cette aide et aussi le fait qu'elle est limitée à une partie des allocataires de minima sociaux. Quel regard est-ce que vous portez sur ces annonces, Bernard Friot ?
Écoutez, quand est-ce que l'on va sortir de ces histoires-là ? Je ne parle pas évidemment de les issues dramatiques dans lesquelles sont trop de nos concitoyens aujourd'hui, mais enfin sont révélées des situations inadmissibles que l'on gère à la petite semaine par de l'aide. L'aide alimentaire, par exemple. L'aide alimentaire, c'est un élément décisif de l'agro-business. La grande distribution génère des excédents. Nous produisons dans l'agro-business 30% de plus que les besoins de consommation alimentaire. Tout ça est un déchet. L'aide alimentaire permet de confier la gestion des déchets à des associations, tout en faisant du crédit d'impôt, puisque la grande distribution qui distribue des éléments d'aide alimentaire, c'est du crédit fiscal. C'est un scandale, cette histoire. L'aide alimentaire, c'est scandaleux. Donc, le problème n'est pas comment est-ce qu'on va améliorer de 100 balles par mois l'aide alimentaire, c'est comment on va la supprimer. Or, ça, on a su le faire pour les soins, on doit pouvoir le faire pour l'alimentation. On peut parfaitement en matière alimentaire, par exemple, créer une sécurité sociale de l'alimentation dans laquelle chacun recevrait sur sa carte vitale, toute la technologie existe. 100 € par personne et par mois, par exemple, on a fait des chiffrages à Réseau Salariat dans mon association sur ces questions-là, qui assureraient en gros déjà un bon tiers du budget alimentaire, voire près de la moitié parfois, et ces 100 €
ne seraient... L'objectif, ce serait de soutenir les agriculteurs indépendants alternatif.
Tout à fait. De même que on ne peut utiliser sa carte vitale qu'auprès de professionnels conventionnés, eh bien, on ne pourrait utiliser cette carte vitale en matière alimentaire qu'auprès de professionnels conventionnés, et on ne va pas conventionner la grande distribution, on ne va pas conventionner l'agro-business, on va conventionner tous ceux qui aujourd'hui, et à tous les niveaux de la production alimentaire, de sa distribution, etc., il y a des alternatives qui nous font sortir de cette logique absurde. Et il n'y aura pas besoin d'aide alimentaire, puisque tout le monde, dans un dispositif universel et non pas centré sur des pauvres, parce que les politiques de lutte contre la pauvreté, en fait, la génèrent, l'entretiennent en permanence, un dispositif universel qui, tout comme le système de soins qui a été mis à mal largement par le gel du taux de cotisation, mais qui a prouvé sa performance considérable lorsque le taux de cotisation augmentait régulièrement, eh bien, nous allons pouvoir faire la même chose en matière d'alimentation, la même chose en matière de logement, la même chose en matière d'accès à la culture. Nous avons une inventivité possible.
Et peut-être que cette crise permet aussi à Bernard Friot de repenser le rapport au travail et notamment à la rémunération. On en parle dans un instant.
En ces temps confinés, on s'est posé un peu. Loin des courses effrénées, on a ouvert les yeux. Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois. Se remettre à penser, même si c'est pas par choix. Alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire, entre les masques et les gants, entre peur et colère, voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion, en ces temps confinés, on se pose des questions. Et si ce virus avait beaucoup d'autres vertus que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables? S'il essayait aussi de nous rendre la vue sur nos modes de vie devenus préjudiciables? Si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi, on laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris. La nature fait sa loi en reprenant ses droits, se vengeant de notre arrogance et de notre mépris. Et est-ce un hasard si ce virus immonde n'attaque pas les plus jeunes, n'atteint pas les enfants? Il s'en prend aux adultes responsables de ce monde, il condamne nos dérives et épargne les innocents. Ce monde des adultes est devenu si fébrile, l'ordre établi a explosé en éclats. Les terriens se rappellent qu'ils sont humains et fragiles, et se sentent peut-être l'heure de remettre tout à plat. Et si ce virus avait beaucoup d'autres pouvoirs que celui de s'attaquer à notre respiration? S'il essayait aussi de nous rendre la mémoire sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions? On se découvre soudain semblables, solidaires, tous dans le même bateau pour affronter le virus. C'était un peu moins le cas pour combattre la misère, on était moins unis pour accueillir l'Aquarius. Et si ce virus avait le don énorme de rappeler ce qui nous est vraiment essentiel? Les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus la norme, et de nos fenêtres on réapprend à regarder le ciel. On a du temps pour la famille, on ralentit le travail, et même avec l'extérieur on renforce les liens. On réinvente nos rituels, plein d'idées, de trouvailles, et chaque jour on prend des nouvelles de nos anciens. Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros, ceux qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines? Ce n'est que maintenant qu'ils font la une des journaux, pendant que le CAC 40 est en quarantaine. Bien avant le corona, l'hôpital suffoquait, il toussait la misère et la saturation. Nos dirigeants découvrent qu'il y a lieu d'être inquiets, maintenant qu'il y a la queue en réanimation. On reconnaît tout à coup ceux qui nous aident à vivre, quand l'État asphyxie tous nos services publics. Ceux qui nettoient les rues, qui transportent et qui livrent, on redécouvre les transparents de la République. Et maintenant,
Alors quand ce virus partira comme il est venu, que restera-t-il de tous ces effets secondaires? Qu'est-ce qu'on aura gagné avec tout ce qu'on a perdu? Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire?
Effets secondaires de grands corps malades. Vous écoutez France Culture dans Entendez-vous l'écho. Bernard Friot et Hélène Périvier sont toujours avec nous pour parler des inégalités mises en lumière par la crise du coronavirus. Alors cette crise accentue aussi les inégalités entre les enfants, entre ceux qui disposent d'un ordinateur et de parents qui peuvent les aider et les autres. Cette nécessité de s'occuper des enfants confinés à la maison, c'est ce qui pourrait entraîner une explosion des inégalités de genre, Hélène Périvier?
Alors ça, on ne sait pas encore, hein. On le verra, c'est compliqué là de savoir comment les ménages se sont réorganisés face à cette situation tout à fait exceptionnelle. On peut imaginer qu'il y a plusieurs configurations. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que les femmes réalisent plus des trois quarts du travail domestique et familial. A priori, quand les deux parents sont confinés, on peut émettre l'hypothèse plus que raisonnable que c'est plutôt la mère qui va s'occuper de l'éducation des enfants et de tout ce qui va avec. Mais il peut y avoir aussi des situations où madame n'est pas confinée et monsieur l'est. On sait très bien que les métiers de la santé, par exemple, sont des métiers dans lesquels les femmes sont surreprésentées. Donc peut-être que dans ces configurations là, monsieur va être en charge de l'éducation des enfants et de toutes ces tâches qui l'accompagnent. Et du coup, ça peut être aussi, dans certains cas, un objet de renégociation de la division sexuée du travail dans les couples. C'est encore un peu tôt pour le dire. C'est vrai que la première hypothèse qui vient, c'est de se dire que ça va renforcer cette division du travail dans les couples. Mais voilà, il faudra quand même qu'on puisse étayer cette hypothèse à partir de données.
Sur le travail domestique, je vous propose d'écouter la sociologue et militante féministe Christine Delphi dans un entretien diffusé dans l'émission À voix nue sur France Culture.
Donc, travail domestique, personne n'en parlait. Il y avait deux sociologues qui en parlaient, et moi je le savais parce que j'étais sociologue, et qui avaient publié dans les années 50, déjà, c'était Stoetzel et Maisonneuve, je crois, qui avaient fait le compte des heures de travail domestique, justement. Et c'était fabuleux parce qu'il y avait plus d'heures travaillées dans les foyers, et qui n'était évidemment pas payé, que d'heures de travail salarié. Donc en fait, l'opposition que je faisais, c'était entre l'économie qu'on juge capitaliste, que l'économie c'est seulement le marché, et l'économie dans le sens de la production, de la transmission et de la consommation de biens qui ne passait pas par le marché. Et c'est ça qu'on trouve dans la famille. C'est ce qu'on trouve dans l'héritage, c'est ce qu'on trouve dans la consommation et c'est ce qu'on trouve dans la production.
Bernard Friot, que vous inspirent ces propos de Christine Delphi qui souligne la distinction dans notre société entre le travail productif et celui qui ne l'est pas?
Bien sûr, hein, les statistiques montrent que le travail caché, disons le travail non rendu public comme travail productif en termes d'heures est supérieur au travail considéré comme productif. Est-ce qu'il faut opposer marchand et non marchand? Ça, je trouve ça plus discutable, parce que le travail reconnu comme productif peut n'être pas marchand. Par exemple, le travail des administrations est comptabilisé dans le produit national. Et heureusement que toute une partie du travail non marchand est reconnue comme telle. Mais c'est clair que de manière dominante, et c'est pour ça d'ailleurs par exemple que le taux de cotisation pour la production de soins n'augmente pas, de manière dominante, on appelle travail aujourd'hui, travail productif, les activités qui mettent en valeur du capital, y compris lorsqu'elles n'ont aucun intérêt en termes de valeur d'usage, disons, en termes d'intérêt social.
Et alors, est-ce qu'il faudrait reconnaître ces tâches domestiques comme relevant du travail, selon vous?
Ça peut se discuter, parce qu'on peut ensuite enfermer les femmes dans cette affaire. La question n'est pas de reconnaître les tâches domestiques comme du travail, c'est de reconnaître que tout le monde, tous les adultes, sont des travailleurs, et que ces travailleurs ont droit à un niveau de qualification et à un salaire. Et donc que toute personne de plus de 18 ans doit avoir droit à 18 ans, disons, automatiquement, le premier niveau de qualification et le SMIC revendiqué, donc mettons 1600, 1700 euros net, et puis ensuite des épreuves de qualification qui permettent de monter en qualification au cours de sa vie.
Alors n'allons pas trop vite en besogne, Bernard Friot, parce qu'on va en parler bien sûr du salaire à vie et également du revenu universel, mais je voudrais simplement entendre le point de vue d'Hélène Périvier sur cette reconnaissance du travail domestique comme un travail avec éventuellement un salaire qui pourrait être versé par l'État. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah ben moi je suis complètement opposée à cette vision-là pour plusieurs raisons. D'abord parce que lorsque Christine Delphi parle de ce travail reproductif dans la famille qui est effectivement fait par les femmes, il y a cette idée qu'il n'est pas ni reconnu ni rémunéré. Alors qu'il n'est pas la reconnaissance, ça certainement, dire qu'il n'est pas rémunéré, je suis un peu en désaccord avec ça parce que toutes les politiques de l'État social depuis sa naissance ont consisté à rendre possible et d'une certaine façon démocratique, accessible à tous les couples, cette division sexuelle du travail. Les politiques de l'État social de Monsieur Gagne-Pain, ça a été depuis la Seconde Guerre mondiale, des politiques, et même avant d'ailleurs, des politiques qui sont venues accompagner cette division du travail avec des allocations, l'allocation salaire unique dans les années 30, ensuite tout un ensemble de dispositifs, l'allocation parentale d'éducation dans les années 80, 90, tout un ensemble de dispositifs qui sont venus rendre ce travail rémunéré. Alors évidemment, c'est pas un salaire pour les femmes, on est bien d'accord, c'est une rémunération, une allocation, ce qui est très différent, qui est donnée au couple. Ça n'émancipe pas les femmes ni de leurs conjoints, ça les rend dépendantes éventuellement de l'État social, mais dire qu'il n'est pas reconnu et qu'il n'est non rémunéré, ça me semble pas exact. Donc moi, je ne pense pas que ce travail doit faire l'objet d'une rémunération. Par ailleurs, entre ce que décrit Christine Delphi dans les années 50 et le travail domestique et familial qui est fait aujourd'hui, il y a un monde, on parle plus du tout de la même chose. Aujourd'hui, ce qui est fait dans la famille, qui est extrêmement chronophage et qui mérite une attention particulière, c'est essentiellement et pour la plupart, le temps qui est consacré aux enfants et qui est toujours, encore aujourd'hui, réalisé par les femmes. Donc c'est cette question-là qu'il nous faut accompagner, notamment par des politiques publiques d'articulation des temps de vie qui permettent à la fois aux hommes de s'impliquer plus dans la famille, et ça c'est absolument central, et puis aux femmes de pouvoir mener la carrière qu'elles souhaitent.
Cela pose en tout cas la question de la justification du salaire. Vous l'avez dit, Hélène Périvier, dans cette crise, les femmes sont particulièrement représentées dans les métiers en première ligne, aide-soignante, infirmière, aide à domicile, agente d'entretien, caissière. Il faudrait, selon vous, aujourd'hui, revaloriser ces métiers parce qu'ils ont une forte utilité sociale ?
Alors d'abord, je pense qu'il faut mettre en avant que la question des salaires, le salaire, c'est pas un prix issu d'une rencontre, d'une demande et d'une offre. C'est un rapport de force en particulier, c'est une négociation qui s'opère et qui est très ancrée dans l'histoire. C'est pas quelque chose qui émerge comme ça. Et on voit que dans, par exemple, dans les grilles salariales, il y a des biais, et notamment des biais de genre extrêmement importants, puisque lorsqu'on regarde les métiers dans lesquels les femmes sont surreprésentées, certains que vous avez cités, on voit que pour des qualifications à peu près identiques, les métiers d'hommes sont mieux rémunérés. Là, je voudrais citer les travaux de Rachel Silvera et Séverine Lemierre, qui ont bien mis en avant ce biais très fort qu'il y a dans les contours de la pénibilité et ou des compétences qu'il faut pour un travail qui justifie un salaire. C'est pourquoi elles en appellent, non pas le principe à travail égal, salaire égal, mais à travail de valeur égale, salaire égal. Parce que cette question de la valeur du travail, elle est extrêmement subjective et elle mérite d'être remise à l'ouvrage à l'aune de ces métiers qui sont encore aujourd'hui insuffisamment reconnus.
On peut se demander, à Bernard Friot, effectivement, ce que le salaire finalement vient rémunérer, de quoi il est l'expression ?
Je voudrais d'abord dire mon accord total avec ce que vient de dire Hélène Périvier, hein, et sur l'expression, alors ce que le salaire vient reconnaître, c'est précisément un enjeu de classe. Le mot central qui a été inventé au XXe siècle à travers la convention collective dans le privé et à travers le grade dans la fonction publique, c'est la qualification. On est payé à la qualification, on n'est pas payé pour la photographie de ce qu'on fait. Ce n'est pas mon activité qui décide de mon salaire. Mon salaire est décidé par la qualification du poste sur lequel je suis, dans le privé, ou par le grade qui est le mien, hein, salaire à la qualification personnelle, donc, dans la fonction publique. Et ça, cette abstraction du salaire par rapport à l'activité, elle est décisive. C'est précisément ce qui permet de contester totalement un salaire pour des tâches domestiques, sûrement pas. Il s'agit que chacun soit titulaire d'un salaire en tant que personne et que, comme le rappelait Hélène Périvier à propos des temps sociaux, il ne soit possible au gré de nos trajectoires familiales et personnelles, par exemple, à un certain moment, mais sans perdre ni en salaire ni en qualification, hein, eh bien, d'être présent auprès des enfants, ou à d'autres moments, d'être militant, enfin, etc., d'avoir une palette beaucoup plus large d'activités possibles. Pourquoi ? Parce que notre rémunération n'est plus la mesure de notre activité, comme dans le travail indépendant ou dans les contrats, les CDD de chantier, tous les contrats liés à une tâche, hein, tout le salaire à la tâche qui est le propre du capitalisme. Non, les personnes sont en tant que personnes titulaires d'une qualification et du coup ont des possibilités d'arbitrage des temps sociaux infiniment plus souples tout au long de leur existence.
Alors justement, vous évoquez le contrat de travail, Bernard Friot, ça c'est une avancée qui a permis d'émanciper les individus par rapport à ce rapport de force, ce rapport de domination qui existe dans le marché du travail ?
Ah ben oui, ça a été très bien montré ça par Claude Didry hein, dans son très bel ouvrage qui s'appelle « L'institution du travail » paru en 2016. C'est un sociologue du droit du travail depuis la Révolution française et il montre comment le Code du travail qui invente le contrat de travail en 1910 est un considérable progrès. La forme canonique du travail dans le capitalisme, c'est le travail indépendant. Prenez un agriculteur FNSEA, disons, lui qui est pris complètement de l'agro-business, qu'est-ce que lui laisse le Crédit Agricole, Lactalis ou Bayer, ses fournisseurs, ses clients et ses prêteurs? Bah, de quoi être encore au boulot demain, hein. Il est reconnu comme porteur de besoins pour faire telle tâche et toute la valeur qu'il produit est ponctionnée en réalité par des groupes capitalistes. Donc le travailleur indépendant, lui, il est totalement payé à la tâche. Nous sommes dans la logique capitaliste absolue dont le confinement actuel montre le caractère préhistorique. Enfin, pas de tâche, à poil. Enfin, c'est terrible. Alors que l'invention du salaire, ça a été justement de déconnecter notre reconnaissance de travailleur de la mesure des tâches que nous sommes en train de faire. Et c'est ça qui va libérer nos vies si nous sommes tous titulaires d'un salaire.
Ce qui nous amène à l'idée, effectivement, d'un revenu universel qui a refait surface un peu partout à la faveur de la crise. En Espagne, le gouvernement a déjà beaucoup avancé sur le sujet. Je vous propose d'écouter Nadia Calviño, la ministre espagnole de l'économie et des entreprises.
L'introduction d'un revenu universel minimal pour l'ensemble de la population espagnole est l'un des éléments qui figurait dans le programme électoral et que nous allons donc mettre en place pendant notre mandat. Nous avons déjà déterminé certains éléments de garantie de revenus dans certaines communautés autonomes. Nous nous concentrons beaucoup sur les familles, mais nous devons prendre en compte les différentes situations personnelles pour que ce dispositif soit en place le plus tôt possible, mais en ayant dès le départ une portée générale et un caractère permanent. Depuis le début de la crise, nous avons pris des mesures pour ne laisser personne derrière. Nous avons commencé avec les travailleurs, notamment pour les contrats courts. Nous avons aidé les plus vulnérables, notamment pour rembourser leurs prêts, et les indépendants. Nous avons beaucoup fait pour aider la population, et en particulier les plus fragiles, d'ici au déploiement du revenu universel. Nous mettons tout en œuvre pour le faire le plus tôt possible et pour que ce soit un outil utile, non seulement pour cette crise exceptionnelle du coronavirus, pour laquelle nous avons pris des mesures spécifiques, mais aussi pour que ce soit un instrument structurel, pérenne et durable.
Un instrument structurel, pérenne et durable. Que pensez-vous de cette initiative espagnole, Bernard Friot ?
Oh ben, le plus grand mal, ça... Tous ceux qui ont lu mes travaux le savent bien. Si vous voulez, depuis, et ça vaut en France, hein, depuis le RMI, le RSA, lorsque Rocard invente le RMI, c'est à la place de l'indemnisation du chômage. Les RMI, ce sont des chômeurs, mais qui ne sont niés comme relevant du droit au salaire. Nous sommes au lendemain de 84, qui a une convention unédique qui a considérablement réduit l'indemnisation du chômage, hein, en 89, lorsque Rocard invente le RMI. Et Il s'agit de poser que, ben, ma foi, les personnes sont porteuses de besoins, qu'elles ont droit à un revenu. Alors au départ, pas universel, hein, mais progressivement, avec le RSA et maintenant avec le revenu minimum d'activité préconisé par la classe dirigeante, il s'agit effectivement de remplacer le droit au salaire de tout un tas de gens par un droit à un revenu minimum, qui est tout à fait cohérent avec le fait de remplacer le droit au salaire liées à la qualification par des rémunérations de plus en plus liées à la mesure de l'activité qu'on est en train de faire. Et comme être payé pour l'activité qu'on est en train de faire génère une vulnérabilité considérable, parce que tout dépend de l'activité à laquelle on peut accéder, eh bien, il faut qu'il y ait un filet de sécurité, que tout le monde ait 800 balles. La classe dirigeante nous méprise suffisamment pour filer à tout le monde 800 balles.
Sauf que tout le monde ne les a pas, ces 800 euros, Bernard Friot en l'occurrence. Au fondement de l'idée de revenu universel, et je voudrais entendre Hélène Périvier là-dessus, il y a cette volonté que personne ne passe entre les mailles du filet des aides sociales.
Oui, alors moi je suis pas non plus favorable à l'idée d'une allocation universelle, si on la définit comme un revenu individuel versé à chacun, sans condition, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la question du niveau de ce revenu se pose, et potentiellement elle peut être plus faible que le niveau du RSA actuellement, ce qui peut mettre des personnes dans une grande difficulté, parce que ça ne tient pas compte de situations qui sont déjà très mal prises en compte, par exemple dans le système aujourd'hui, comme les familles monoparentales, en l'occurrence le plus souvent des femmes qui élèvent seules leurs enfants et qui sont déjà particulièrement aidées par les politiques publiques, mais encore insuffisamment au regard de la baisse de niveau de vie qu'elles ont subie après la séparation. Et toutes ces questions-là ne sont pas prises en compte par ce système d'allocation universelle. Alors moi j'entends bien ce que dit Bernard Friot et je comprends bien la logique. Il est vrai que le RSA, en particulier au moment où il a été mis en place, avait une logique un peu minimaliste, avec cette idée que il faut bien accepter le petit boulot qu'on vous propose, il est mal payé mais on va vous le compenser un peu, acceptez-le. Et que cette idée de la désincitation au travail qui a été extrêmement prégnante dans les années 90-2000 a sapé un peu la façon, la structure de nos politiques sociales. Donc là, effectivement, il faudrait revenir plutôt à une notion d'attractivité du travail plutôt qu'une désincitation du travail. Il faut aussi que le travail permette aux gens de vivre, il faut que ce travail soit attractif dans les conditions dans lesquelles il est réalisé, etc. Donc c'est de ça dont on doit discuter. Peut-être qu'il y a des petits boulots qui disparaîtront, mais peut-être faut-il qu'ils disparaissent. C'est ces questions-là qu'il faudrait qu'on discute plus qu'une allocation universelle qui peut avoir plus d'effets pervers que de bienfaits.
Ce qu'il faut bien expliquer, c'est qu'il y a plusieurs conceptions du revenu de base. La plus libérale, peut-être, consiste à proposer un impôt négatif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit, Bernard Friot ?
Oui, hein, le revenu de base est né aux USA et correspond tout à fait à la philosophie de ce pays central du capitalisme contemporain. Il s'agit de lutter contre la pauvreté, comme toujours, c'est toujours la même chose, hein, à partir d'un postulat, et c'est ça, c'est ce postulat qu'il faut interroger, et que ce période de confinement devrait nous permettre d'interroger davantage, c'est que nos personnes sont étrangères au travail, et que on est reconnu comme travailleur que si on se soumet au marché du travail, que si on se soumet au marché des biens et services. Quand on est travailleur indépendant, marché du travail et marché des biens et services sur lesquels nous n'avons aucune prise, ce sont l'essentiel de la bourgeoisie capitaliste qui décide de ces marchés. Et donc, je considère comme absolument préhistorique, hein, le fait que ce ne soit pas nos personnes qui, en tant que telles, de 18 ans à la mort, soient reconnus comme des producteurs. Ça ne veut pas dire que tout ce que nous faisons est de la production. En ce moment, par exemple, moi je suis un retraité qui a droit à un salaire lié à ma personne. Ça ne veut pas dire que là, dans cette émission, je suis au travail. Au contraire, c'est parce que je suis reconnu en permanence comme travailleur par un salaire lié à ma personne qui ne peut pas disparaître, qui ne peut pas diminuer, qui ne peut qu'augmenter par des épreuves de qualification, que je peux tenir à distance de la valeur des quantités d'activité. Parce qu'il faut que des quantités d'activité soient tenues à distance de la valeur. Sinon, nos vies vont être, on va monétiser. Quand on est dans l'incertitude, qu'est-ce qu'on fait? On monétise une semaine de son appartement sur Airbnb, 50 km de sa bagnole sur Blablacar. C'est une catastrophe. On est dans une logique de monétisation de tout notre quotidien. C'est affreux.
Mais c'est en tout cas selon cette première conception libérale du revenu de base que a été mise en place une sorte de revenu universel temporel aux États-Unis en ce moment, avec cette aide de $1000 versée à chaque adulte.
Oui, on interroge vraiment le niveau. Oui, le niveau, c'est ce dont je parlais. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout à la hauteur de l'effondrement total du niveau de vie pour un certain nombre d'Américains. C'est ce qui se passe aux États-Unis est absolument dramatique. Donc là, on est en train de donner une petite, de verser une petite goutte d'eau. Et c'est là où on peut s'interroger sur le niveau de cette allocation, en l'occurrence ici, qui n'est pas une allocation universelle ou stricto sensu.
Et quid d'une allocation qui serait effectivement bien plus élevée, qui serait par exemple de 1 500 euros et qui serait complétée par les aides sociales qui existent déjà, Hélène Périvier?
Mais vous voyez bien le problème, c'est que quand vous vivez à deux avec un revenu, pour un même revenu, quand vous vivez tout seul, enfin, vous n'avez pas besoin de doubler le revenu d'une personne seule pour qu'elle ait le même niveau de vie qu'un couple, parce que vous avez des économies d'échelle à la vie ensemble. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a des situations particulières, quand on a un handicap, lorsqu'on élève seul ses enfants, ben là, du coup, ces économies d'échelle sont beaucoup moins importantes. Vous n'allez pas tenir compte, avec ce système d'allocation universelle, vous n'allez pas tenir compte de ces différents niveaux de vie liés à la structure de la famille. Alors maintenant, si vous me dites, si vous rajoutez une allocation universelle au système actuel, là, je vous dis, c'est pas tenable. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut quand même qu'on puisse financer tout ça. Et ça, ce sera pas possible. Donc, s'il s'agit de verser un revenu universel à tout le monde, de supprimer les aides sociales qui existent et de le financer par l'impôt, je pense que le système qui en découlera sera beaucoup moins redistributif que le système qui existe déjà. Moi, je pense que l'urgence, elle serait plutôt de relever le niveau des minima sociaux pour que les personnes les plus fragiles puissent bénéficier d'une augmentation de niveau de vie. Plutôt réfléchir dans cette base-là. Même si je suis assez d'accord que les orientations en matière de politique sociale ces 10 dernières années ou ces 20 dernières années ou même ces 30 dernières années n'ont pas été dans ce sens-là.
Bernard Friot, plutôt qu'un revenu universel, vous proposez un salaire à vie avec cette idée que vous avez développée de lier le salaire à une personne et non à un emploi. Mais alors comment serait financé ce salaire à vie ?
D'abord, j'insiste, hein, merci beaucoup d'aborder ce point, j'insiste sur le côté anthropologique de la question. Hein. Pour moi, il est inadmissible que des personnes relèvent de minima sociaux. Et on peut les relever tant qu'on veut. Ça veut dire quoi ? C'est des personnes à minima, ces personnes ? Pourquoi est-ce qu'il y a des adultes de plus de 18 ans qui seraient considérés comme ne relevant pas du statut commun ? Et le statut commun, c'est le statut de contributeur à la production de valeur économique, ce qui, encore une fois, ne signifie pas que toutes nos activités sont productives. Hein. Et donc, il y a une question pour moi anthropologique. C'est pour ça que je parlais de préhistoire à propos de périodes de notre existence où nous serions sans salaire. Alors, comment le financer ? Bien, écoutez, nous avons un PIB dont la valeur marchande est en gros de la valeur annuelle, hein, de 1 400 milliards. Divisez ça par les 50 millions de plus de 18 ans qui habitent sur le territoire, ça fait un salaire moyen de 18 ans à la mort de 2 300 euros. En moyenne, on peut ensuite être plus ou moins favorable à la hiérarchie des salaires. Moi, je crois à la nécessité d'une hiérarchie, mais modérée de 1 à 3, par exemple. Hein. Et donc, à 18 ans, tout le monde a les 1600 ou 1700 euros du premier niveau de qualification et on a un salaire maximum de 5000 euros par mois. Moi, je pense que ceux qui ont besoin de plus de 5000 euros par mois pour bosser, c'est qu'ils font vraiment de la merde.
Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont vous dire que ça risque d'avoir un effet désincitatif sur le travail ?
Ah ben ça, c'est qu'ils sont totalement aliénés à la définition capitaliste du travailleur. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'un travailleur capitaliste ? C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de pouvoir sur l'investissement, qui n'a pas de pouvoir dans l'entreprise et qui est incité par le fouet du marché du travail ou du marché des biens et services. Et donc, à partir du moment où nous sortons de cette logique-là, hein, pour confier la direction des services publics, comme nous l'avons fait pour le régime général en matière de santé, de retraite, etc., pendant 20 ans, de 47 à 67, hein, avant que De Gaulle mette bon ordre capitaliste à tout cela, et étatise un truc qui ne relevait pas de l'État, justement, mais des travailleurs eux-mêmes. À partir du moment où nous devenons gestionnaires en tant que travailleurs, de nos entreprises, des institutions dans lesquelles nous sommes, mais notre incitation au travail, elle va être totale. On le constate dans chaque fois qu'une entreprise est reprise par ses salariés. C'est très très difficile d'ailleurs, hein, parce que le capital ne supporte pas la reprise d'entreprise par les salariés. Mais la mobilisation des travailleurs, elle est absolue, parce que nous aimons contribuer à la production commune.
Et l'idée de ce salaire à vie, c'est de remettre en cause les logiques de pouvoir du marché du travail ? C'est ce que cela permettrait ?
Mais bien sûr, de logique de pouvoir. pouvoir dans l'entreprise. C'est pour cela que là, pour moi, l'urgence du jour d'après, comme on dit, alors que nous avons pris conscience que vraiment le coronavirus a à voir avec la folie écologique, anthropologique, territoriale du capitalisme, c'est que nous retournions dans une entreprise en étant décidés à devenir souverains sur notre travail, que nous conquérions des droits qui fassent que nous nous opposions à tous les injonctions qui sont incohérentes avec notre déontologie, avec notre sens du travail bien fait. Dieu sait s'il y a une souffrance au travail aujourd'hui parce que les directions imposent au nom des actionnaires, au nom du New Public Management dans le public, des modes de travail qui ne correspondent pas aux aspirations des personnes. Donc, sortir de ce confinement en étant collectivement déterminé à devenir souverain sur notre travail concret dans les entreprises pour en finir avec des pandémies qui sont liées à la folie capitaliste. Là, pour moi, c'est ça l'urgence.
Hélène Périvier, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de Bernard Friot d'un salaire à vie?
Écoutez, moi, je pense que, bien sûr, que tout ce dont nous parlons maintenant s'inscrit dans une histoire longue de nos sociétés et qu'on peut souhaiter qu'elle soit autrement. Et je suis d'accord qu'on pourrait remettre sur le débat la question de la place du travail, de la place du salaire. Néanmoins, aujourd'hui et pour le confinement du 11 mai, je pense qu'il faut trouver des solutions qui permettent de soutenir au mieux la situation dramatique dans laquelle un certain nombre de gens se trouvent.
Il faut parer à l'urgence maintenant.
Mais j'entends bien ce que Bernard Friot va me dire. L'urgence, c'est maintenant ou c'est jamais, et qu'il nous faut tout renégocier. Moi, je pense quand même que derrière cette idée du salaire à vie que l'on aurait à partir de 18 ans, j'entends bien l'idée de la cogestion ou de la réappropriation de l'outil productif par les travailleurs, qui est tout à fait séduisante. Mais néanmoins, il faut organiser ce travail. Donc, si à 18 ans, là, vous donnez à tous les jeunes un salaire, du jour au lendemain, il faudrait réorganiser tout l'appareil productif. Il faudrait voir comment ces jeunes vont pouvoir se comporter et qu'est-ce qu'ils vont faire.
Avec le risque qu'un certain nombre de métiers ne trouvent pas preneur.
Par exemple, on ne dit pas que le système n'est pas forcément parfait tel qu'il fonctionne actuellement, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire table rase de ce qui existe, on ne peut pas faire table rase de notre histoire sociale. Donc oui, je serais plutôt favorable à ce qu'on regarde les dysfonctionnements tels qu'ils sont, à essayer de parer à l'urgence. J'entends bien, et je n'ai jamais eu cette idée que les minima sociaux, c'était des gens qui étaient à minima, mais je pense qu'il est aussi dangereux d'une certaine façon, même si je comprends bien que ce n'est pas l'objectif de Bernard Friot, mais il ne faut pas trop non plus tirer sur ces dispositifs sociaux qui sont extrêmement importants, qui sont souvent mis à mal et souvent réduits comme peau de chagrin. Il faut faire attention à ne pas trop tirer dessus parce que je trouve qu'au contraire, il nous faut les défendre, il nous faut reconstruire des politiques sociales qui redonnent un caractère redistributif à notre système fiscal et social. Et je pense que cette urgence-là, elle est assez importante et dans l'après-confinement, il va être extrêmement important de savoir comment est-ce que on va payer le coût de la crise que nous traversons. Qui va le supporter, comment aider les gens qui sont en très grande difficulté. C'est ça l'urgence.
Merci beaucoup Hélène Périvier et Bernard Friot d'avoir été avec nous à distance. Merci également au CDM, à Jean-Marc Loss, à Marie-Christine Vesli et Olivier Arnay qui assurent aujourd'hui la technique depuis Radio France. On se quitte avec un titre inédit du groupe Oasis, Don't Stop. Demain, le ministère de l'économie s'est-il converti à l'hétérodoxie? La dépense publique comme remède à la crise, on en parlera avec Xavier Timbaud et Laure Kenwilcor. À noter que cette semaine, la crise est aussi au menu de la Compagnie des œuvres de Mathieu Garrigou-Lagrange, que vous retrouverez dans un court instant. Le premier épisode est consacré à la fraude en temps de crise dans le roman de Balzac, La Maison Nucingen. Excellente journée à l'écoute de France Culture et à demain. Don't be sad.